Portrait de femme de notre matrimoine par Jacqueline Graff, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons présenter une femme soldat. Une femme soldat qui servit durant 22 ans dans l'armée française, sous la République, puis sous l'Empire napoléonien. Elle s'appelle Marie-Thérèse Figuer, F-I-G-U-E-U-R, ou plutôt Thérèse Figuer, surnommée Sans Gêne. Elle est née le 17 janvier 1774 à Talmay, près de Dijon, et orpheline à 9 ans, elle est recueillie par son oncle Joseph Viard, qui la confie à un blanchisseur de Rueil. Une enfance heureuse au cours de laquelle, fillette turbulente, elle fait la connaissance d'un garçon de 11 ans, Clément Sutter, qu'elle n'oubliera jamais et qu'elle épousera sur le tard en 1818. À 11 ans et demi, son oncle la fait revenir à Avignon. Quand éclate dans cette ville l'insurrection fédéraliste contre la Convention républicaine en 1793, Thérèse a 19 ans, s'habille en soldat pour rester auprès de son oncle. Mais ils sont faits prisonniers par l'armée républicaine. Et là, Thérèse change de camp. Elle s'enrôle alors pour servir la République dans le régiment des dragons. Les dragons sont des soldats d'un corps de cavalerie créé au XVe siècle pour combattre à cheval. Elle fera dans cette arme toutes les campagnes de la République, puis de l'Empire. Elle est surnommée alors Sans Gêne, son nom de guerre désormais, qu'elle doit à son caractère affirmé, sa témérité, son audace. Dès lors commence pour elle une vie traversée d'aventures guerrières, d'actions d'éclat mêlées de gestes de bonté. On distingue deux périodes dans ses 22 années de vie militaire. La première au service de la République, la deuxième au service de l'Empire, mais toujours au service de la France. Elle participa à toutes les campagnes républicaines de l'an 2 à l'an 8, c'est-à-dire de 1792 à 1798, en Helvétie, en Italie, en Espagne. En 1793, elle prit part, sabre en main, au siège de Toulon avec Bonaparte, alors capitaine d'artillerie, face aux Anglais, aux Espagnols et aux royalistes français, tous coalisés contre la République. Dans cette Europe monarchique et aristocratique, l'internationale des rois, peuplée de cousins et de beaux-frères, de neveux et de petits-enfants, la France républicaine est devenue le centre des alarmes pour les uns, comme à l'autre bord, celui des espoirs. Incorporée au 15e régiment des dragons, elle est envoyée à Collioure et Port-Vendres que les Espagnols avaient envahi. En 1794, les troupes débouchent en Espagne. Le général Dugommier fut tué à la prise de Figueras, mais l'armée française, Sans Gêne en tête, poursuit les Espagnols sur la route de Bascara. Sans Gêne fit prisonnier une femme et un homme qu'elle ne maltraita pas et reçut les félicitations pour cela du général Augereau. La trêve est déclarée entre les deux pays. Là se situe un épisode assez comique, mais significatif de sa personnalité. Courtisée par un jeune officier, elle rentre en France, à Perpignan, pour se marier, bien que non amoureuse. Elle ne s'habille pas en mariée, mais revêt son plus bel habit militaire, semblable à celui de son fiancé. Et pour cela, elle subit les moqueries et les colibés des passants, et de l'officier d'état civil, lui-même, qui s'écrie « Avant tout, je demanderai aux deux citoyens ici présents lequel des deux est la mariée. » Très en colère, Sans Gêne plante là son fiancé et part au triple galop vers Narbonne, fuyant le mariage pour se rendre chez deux amis, désertant du même coup sa brigade de Perpignan. Donc elle est punie pour cette désertion, mais elle s'évade en trouvant le moyen d'incendier la salle de police. En Italie, elle fit partie des troupes françaises qui occupèrent le Milanais. Bonaparte y détruisit la République de Venise, période obscure et sans gloire pour Thérèse. En 1798, la coalition, composée de l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, le Royaume de Naples, contre la République, met en ligne des forces imposantes et accable les troupes françaises d'Italie peu nombreuses. Nous arrivons en l'an 8, le 8 Brumaire, c'est-à-dire le 19 février 1799. Thérèse est faite prisonnière par les Autrichiens, mais elle s'évade et trouve refuge chez le comte Belin de Busco, un Piémontais acquis aux idées de liberté propagées par les troupes républicaines. Il lui fait donner des vêtements féminins et la protège quelque temps. Le 2 novembre 1799, elle rejoint les avant-postes français et combat avec 1100 Français contre des milliers d'Autrichiens. Un combat inégal. Elle est blessée de plusieurs coups de sabre dans le dos à la bataille de Cavigliano le 4 novembre 1799. Faite prisonnière à nouveau, elle est maltraitée, doit marcher pieds nus, ses bottes lui ayant été volées, dort avec d'autres prisonniers sur le sol dallé d'une chapelle. Manquant d'être accusée de sorcellerie et brûlée vive, parce que femme habillée en homme, elle prend en hâte des habits de femme prêtés par une prisonnière et, s'enfuyant, arrive ainsi à Turin où elle reprend son apparence de soldat. Là, elle fait la connaissance du prince de Ligne, un prince belge aimant la France, féru de littérature, connaissant la Bourgogne comme elle. Il la prend sous sa protection, la soigne, la nourrit. Elle-même vient en aide aux prisonniers français, car sans gêne ne sombra jamais dans l'égoïsme. Elle fut toute sa vie sensible à la misère d'autrui, quel qu'il soit. Le prince de Ligne lui facilita son retour à son 9e régiment des dragons, mais sur le chemin, elle fut à nouveau dépouillée de ses vêtements et dut traverser à la nage une rivière bouillonnante pour retrouver les soldats français. Ils lui fournirent des vêtements misérables, et elle partit à pied pour Briançon, puis Embrun, où elle se présenta à son chef d'escadron. Mais toutes ces épreuves ont raison de sa santé. Malade, elle est envoyée au dépôt du 15e dragon à Lons-le-Saunier. Elle obtient une pension militaire, quitte l'armée en septembre 1800, se retire à Chalon-sur-Saône, où elle est logée et soignée chez le maire pendant 2 ans. En 1802, guérie, elle peut se rendre à Paris, veut redevenir soldat. Là commence la 2e période de sa vie militaire. Devenue célèbre dans le tout Paris comme étant « la femme dragon », entre guillemets, elle fait la connaissance de Joséphine Bonaparte, la femme du premier consul. Parce qu'entre-temps, en effet, le consulat a été instauré par le coup d'État du 19 Brumaire, c'est-à-dire les 9 et 10 novembre 1799. Et il y a 3 consuls, Seyès, Roger Ducos et Bonaparte. En fait, Bonaparte était le seul maître de la situation. Le 19 Brumaire marquait la fin de la Révolution et de la République. Une autre époque commençait. Grâce à la protection de Joséphine, Thérèse obtient une place à la cour consulaire. Mais cette vie ne convient pas à la bouillante sans gêne. Elle rejoint son régiment et prend part aux campagnes militaires de 1805 et 1806. Rentrée en France, à bout de force, elle est hospitalisée à l'hôpital de la Charité et ne se rétablit qu'un an plus tard. Mais elle repart. Elle repart faire la guerre en Espagne, à Burgos. C'est une période de guerre continuelle des coalisés européens contre Napoléon. L'Espagne est alors soulevée contre le roi imposé par Napoléon, son frère Joseph Bonaparte, les partisans espagnols, les fameux guerrilleros, massacraient les Français dans des embuscades. Toujours humaine, même envers l'ennemi, sans gêne vient en aide à de nombreux mendiants et mendiantes qui se présentaient chez le curé où elle logeait. Au cours d'une sortie avec son cheval, elle tombe entre les mains des guerrilleros, mais ceux-ci l'épargnent en reconnaissance du bien qu'elle a fait autour d'elle aux Espagnols. Transférée en Angleterre, pays ennemi de Napoléon en particulier, et de la France en général, vêtue en femme, elle vit en captivité près de Southampton chez un tailleur. Après la chute de Napoléon, exilée à Sainte-Hélène en 1821, comme tout le monde le sait, elle débarque à Roscoff, en Bretagne, et revoit enfin avec joie le sol français. Cette fois, elle quitte définitivement l'armée pour vivre une vie civile car elle épouse l'ami d'enfance qu'elle a retrouvé, Clément Suter. Elle vit heureuse avec lui pendant 12 ans, jusqu'à la mort de celui-ci. Sa vieillesse fut une triste vieillesse de misère et de maladie. Elle s'éteignit à l'hospice des petits ménages le 4 janvier 1861, à 86 ans, oubliée de tous. Cependant, elle avait eu le temps de dicter ses mémoires à Saint-Germain-le-Duc, ces mémoires qui sont pour nous un témoignage précieux de sa vie tumultueuse, dans une période elle-même tumultueuse de l'histoire de France. Mais quelle période de l'histoire de France n'est pas tumultueuse ? Donc en conclusion, nous dirons que bien qu'héroïne atypique de guerrière patriotique mue par l'amour de l'action militaire, elle n'en est pas moins une femme au parcours exceptionnel, une femme exceptionnelle de notre matrimoine. Peut-être trois citations tirées de ses mémoires. Du général Dopé, dans ses mémoires à lui, dit de Sangène, « Cette jeune femme a toujours porté l'uniforme et fait son service. Elle ne supportait aucun outrage de ses camarades. Elle a emporté dans ses foyers l'amitié de ses frères d'armes. » Du général Bonaparte, lui-même, lors de leur deuxième rencontre, 9 ans après le siège de Toulon, « Mademoiselle Figuer est un brave. » Et de Joséphine Bonaparte, « Que vous êtes heureuse d'être brave, de n'avoir peur ni d'un cheval, ni du canon. Moi, j'ai peur de tout. »
Et puis enfin vos sources.
Oui, les sources, des extraits de ses mémoires publiés en 1842, puis en 1894, sous le titre « Les campagnes de Mademoiselle Thérèse Figuer, aujourd'hui Madame Veuve Sutter, ex-dragon au 15e et 9e régiment de 1793 à 1815 ». Donc des mémoires écrites sous sa dictée par Saint-Germain-le-Duc, édition Dauvin et Fontaine. L'histoire de France de 1774 à 1851 de Mallet Isaac, librairie Hachette, 1920. La Révolution, une œuvre collective, librairie Hachette et Société d'études et de publications économiques de 1965.
Jacqueline, merci et à la semaine prochaine.
Merci,
au revoir.
À la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous.